Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 1er novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Zarif dévoile les détails du plan iranien pour établir la paix au Haut-Karabakh. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, colère du monde musulman et affaire des caricatures, 130 députés iraniens appellent Paris à un geste d'apaisement. Première marche en arrière de l'Élysée face à la vague croissante de francophobie. L'actualité, c'est également la Syrie, avec un hélicoptère militaire américain qui s'est écrasé dans le gouvernorat de Hasaké dans le nord-est. Et puis l'élection présidentielle et les sondages aux États-Unis, c'était les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Reste avec nous. À la une de ce journal, la colère du monde musulman et affaire des caricatures, 130 députés iraniens appellent Paris à un geste d'apaisement. La colère ne se calme pas dans le monde musulman contre le président français qui a défendu la liberté de caricaturer le très vénéré prophète de l'islam. 130 députés iraniens ont appelé dans une déclaration les autorités françaises à exprimer leur sincère regret pour cet acte odieux et inhumain, je cite, et ont exigé des excuses auprès des nations musulmanes du monde. 130 députés ont signé une déclaration appelant le ministère iranien des Affaires étrangères à convoquer l'ambassadeur de France à Téhéran en réaction aux récentes déclarations controversées des autorités françaises tenues en guise de soutien aux caricatures blasphématoires, injuriant le très vénéré prophète de l'islam sous couvert de la liberté d'expression. Une fois de plus, le monde musulman a été le théâtre de l'émergence de pensées perverses et vicieuses, partagées par des démons humanoïdes, qui, avec leur méchanceté intellectuelle et idéologique typique d'un diable, répandent plus que jamais leur étincelle puante sous la bannière de la liberté d'expression, peut-on lire dans le texte. Le monde musulman a assisté à plusieurs reprises à cette profondeur d'ignorance moderne et à cette dépravation de la part des mercenaires culturels et politiques à la solde de l'islamophobie. Certes, les monothéistes et les croyants du monde dont toutes les religions et croyances s'y opposent, lit-on toujours dans le texte. Tous les monothéistes du monde, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs, condamnent cet acte insultant proféré à l'encontre du prophète, précise encore la déclaration. L'ambassadeur iranien au Yémen condamne l'assassinat du ministre des Sports du gouvernement de salut national. L'ambassadeur d'Iran au Yémen a condamné l'assassinat du ministre des Sports et de la Jeunesse du gouvernement de salut national, a déclaré que des efforts étaient déployés pour éradiquer le terrorisme avec la coopération de Sanaa. Hassan Irlou, l'ambassadeur d'Iran au Yémen, a condamné sur sa page Twitter l'assassinat d'Hassan Zaid, ministre des Sports et de la Jeunesse du gouvernement de salut national du Yémen. Il a écrit « Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'assassinat et nous travaillons avec le gouvernement yéménite pour promouvoir la sécurité, la paix et éradiquer le terrorisme ». La semaine dernière, le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran au Yémen a présenté une copie de ses lettres aux créances à Hisham al-Sharaf, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de salut national. le ministre des Sports et de la Jeunesse du gouvernement de salut national du Yémen, Hassan Zayd, a été assassiné la semaine dernière par des inconnus à Sanaa. Le ministère de l'Intérieur yéménite a annoncé l'identification des auteurs de l'assassinat et du meurtre du chef de l'équipe, ainsi que de plusieurs autres, lors d'une opération de sécurité. L'Arabie saoudite a récemment annoncé une liste de 40 membres du mouvement populaire yéménite d'Ansar Allah et a annoncé qu'elle récompenserait quiconque fournirait des informations à leur sujet. Le ministre des Sports figurait sur la liste. Le samedi 31 octobre, un hélicoptère militaire américain s'est écrasé dans le gouvernorat de Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, selon plusieurs sources de l'opposition pro-occidentale. Selon la presse, l'hélicoptère américain était tombé près de la ville d'Al-Shadadi, dans la campagne du sud du gouvernorat de Hasakeh. D'autres sources ont rapporté que l'hélicoptère s'était écrasé à l'intérieur d'une base de la coalition dirigée par les États-Unis, située à proximité de la ville. L'hélicoptère a brûlé pendant 3 heures après s'être écrasé. Il a apparemment été détruit dans l'accident, précisent les sources. Pendant ce temps, certaines sources ont déclaré que l'hélicoptère américain s'était écrasé et avait brûlé à la suite d'une erreur technique. Aucune perte humaine n'a été signalée à ce jour. La coalition américaine et les forces démocratiques syriennes FDS, qui contrôlent la zone où l'accident présumé a eu lieu, n'ont pas encore commenté cette information. On sait que plusieurs hélicoptères AH-64 Apache et UH-60 Black Hawk sont déployés dans la base de la coalition US à Al-Shadadi. Des avions à décollage et atterrissage verticaux sont également actifs dans le nord-est de la Syrie. Par ailleurs, la chaîne syrienne Al-Akhbariya a rapporté que la voiture d'un chef de la milice kurde FDS a été également prise pour cible samedi soir dans le quartier d'Al-Nashwa Filat à Hasakeh. Des sources officieuses font état de la mort du commandant FDS répondant au nom de Haval Riyad dans l'explosion de sa voiture par des hommes armés. Des militants de l'opposition ont partagé une photo de l'un des drones qui ont frappé le Grand Idlib. Le drone, qui avait une conception d'aile en forme de X, est identique à un type utilisé en juillet dernier lors d'une attaque contre une entreprise de trafic de carburant dirigée par Hayat al-Tahrir al-Sham. Face à la vague croissante de francophonie qu'il a suscité avec en toile de fond le boycott des produits français dans près de 54 pays du monde, le président français Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix que de mettre de l'eau dans son vin et de reculer. Dans une interview avec une chaîne qatarie, le président français est revenu implicitement sur ses positions, affirmant qu'il comprenait les sentiments des musulmans face à la publication de caricatures offensantes. Ce virage macronien a commencé alors même que les pairs occidentaux commençaient aussi à lâcher Macron face à l'ampleur du mouvement de protestation. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé vendredi « Nous allons toujours défendre la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'est pas sans limite ». Quelques heures plus tard, une attaque à l'arme blanche a fait plusieurs victimes samedi soir dans le Vieux-Québec au Canada. Un suspect, un jeune homme, a été arrêté par la police peu après les faits dans la nuit de samedi à dimanche. Il semble que cette attaque porte de l'eau au moulin des partis islamophobes qui tirent bénéfice de la campagne de dénigrement anti-musulman en France et en Occident. L'élection présidentielle et les sondages aux États-Unis, ce qui rend l'élection présidentielle du 3 novembre si incertaine, c'est qu'en 2016, la fiabilité des sondeurs, censés prendre le pouls du pays, avait été mise à mal après n'avoir pas vu monter le vote pro-Trump. Quelques instituts de sondage pensent que les votes en faveur de Donald Trump pourraient être sous-estimés, car certains électeurs pro-Trump, interrogés au téléphone, hésiteraient à dire la vérité ou bien même ce serait parfois passer le mot pour mentir et pour essayer de créer une surprise in fine. Néanmoins, tous les instituts de sondage s'accordent actuellement à prédire une large victoire de Joe Biden. Et il en va de la crédibilité de ces sondeurs, puisque lors de l'élection présidentielle de 2016, ils s'étaient totalement trompés, car le système électoral aux États-Unis est très compliqué. Entretien téléphonique entre Saïd et Macron. Le président de la République tunisienne, Kais Saïd, s'est entretenu samedi au téléphone avec le président français Emmanuel Macron. L'entretien a porté sur les relations bilatérales exceptionnelles, outre les opérations terroristes qu'a connues et que connaît encore la France, précise un communiqué de Tunis publié samedi, ajoutant que le président Kais Saïd a exprimé sa condamnation de toutes les formes de violence et de terrorisme. Autre thème, l'Égypte conclut un accord de reconstruction avec l'Irak en échange de pétrole. 15 mémorandums d'accord et un programme de coopération ont été signés entre les deux pays à l'issue de la réunion de la haute commission mixte. l'Irak et l'Égypte ont signé samedi 15 mémorandums d'accord et un programme de coopération dans plusieurs domaines, y compris la reconstruction. Les deux pays ont opté pour l'accélération de la mise en œuvre des projets menés par les entreprises égyptiennes dans le cadre du mécanisme du pétrole en échange de la reconstruction. Sachez également qu'auprès de 25 millions d'Algériens sont appelés dimanche à entériner une réforme constitutionnelle qui vise à tourner la page du mouvement de protestation populaire Irak en l'absence de l'initiateur de ce référendum, le président Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé à l'étranger après l'annonce des cas suspects de la maladie à coronavirus dans son entourage. Enfin, premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Près de 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Côte d'Ivoire. Pour ce premier tour de l'élection présidentielle, ils avaient le choix entre 4 bulletins, un scrutin boycotté par l'opposition qui avait lancé un appel à la désobéissance civile. Fin de ce journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Zarif dévoile les détails du plan iranien pour établir la paix au Haut-Karabakh. Le plan proposé par la République islamique d'Iran pour l'établissement de la paix dans le Haut-Karabakh est un pas vers la résolution définitive de ce conflit par le retrait des forces armées des territoires occupés, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Depuis le début de la crise du Haut-Karabakh, nous avons consulté les pays de la région, notamment l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Russie et la Turquie, afin de rétablir la paix dans cette zone, a déclaré Mohammad Javad Zarif. Nous pensons que ce sont les pays de la région qui subissent le plus de dégâts dans cette guerre et ces pays peuvent avoir le plus grand impact sur la fin de ce conflit. Dans ce contexte, nous avons essayé d'atteindre ces objectifs sans essayer de rivaliser avec d'autres mécanismes existants, tels que MISC, ajouté le très haut diplomate iranien. Malheureusement, au cours des 30 dernières années, les négociations ne sont pas abouties à un résultat et ces tensions existent encore le long de nos frontières où les civils iraniens étaient menacés de la part des deux côtés engagés dans le conflit, a poursuivi le chef de la diplomatie iranienne. Expliquant les objectifs du voyage régional du vice-ministre iranien des Affaires étrangères et le plan de paix au Haut-Karabakh proposé par l'Iran, Zarif a confié au correspondant de l'IRNA, M. Arorchi, a fait ce voyage afin de présenter le plan iranien qui a été discuté dans notre pays, approuvé par les autorités compétentes. Il s'est rendu à Bakou pour rencontrer les responsables azerbaïdjanais, en particulier le président Aliyev. En Russie, il a eu de très bons entretiens avec les responsables du ministère russe des Affaires étrangères. À Erevan aussi, M. Arorchi a rencontré des divers responsables, notamment le premier ministre arménien. Et en Turquie aussi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré son homologue turc. Le chef de l'appareil diplomatique iranien a souligné ensuite « L'un des points importants du plan iranien concerne le fait qu'il n'est pas seulement lié à un cessez-le-feu temporaire, mais il cherche la résolution définitive des conflits et repose sur un cadre qui commence par l'annonce de l'engagement de la part des deux parties à un ensemble de principes. L'initiative iranienne envisage le retrait des forces de toutes les zones occupées. » Mohammad Javad Zarif a considéré la garantie sur les droits des personnes, la mise en place des canaux de communication et la supervision des pays de la région sur la mise en œuvre du plan comme des composantes essentielles du plan de paix de la République islamique d'Iran pour établir la paix dans la région du Haut-Karabakh. Quant au transfert des forces terroristes vers la région du Haut-Karabakh, le chef de la diplomatie a déclaré « Nous avons clairement souligné que cette action n'est dans l'intérêt de personne. Pendant et avant les pourparlers, nous avons informé l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que la Russie et la Turquie, que l'Iran ne tolère pas une telle chose. »
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 30 octobre 2020. Trois personnes ont été tuées dans une attaque à l'arme blanche à Nice, dans le sud-est de la France. Selon les enquêteurs, l'auteur de l'attaque serait un ressortissant tunisien âgé de 21 ans, récemment arrivé en France en provenance d'Italie. Après cette attaque, la France a porté l'alerte sécuritaire dans le pays au plus haut niveau. En réaction à ces attaques, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a fermement condamné en effet l'attentat à Nice et averti que, en effet, le cercle vicieux de discours de haine, des provocations et de violence devraient être remplacées par la raison. M. Zarif a également prévenu que le radicalisme, en effet, engendrait davantage de radicalisme dans le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette attaque à Nice. Bien sûr, la rhétorique anti-musulmane et islamophobe du président français Emmanuel Macron, qui continue de susciter l'indignation et la colère au sein du monde musulman, et les conséquences, en effet, de cette campagne islamophobe en cours en France. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Ça y est, on y est. Israël et ses amis français pourraient s'en réjouir. La fabrique de la guerre civile en France, à laquelle a activement participé le président Macron à travers un discours résolument anti-islam, a fini par entrer dans la phase la plus dangereuse, celle qui consiste à prouver que l'indignation du monde musulman face à l'offense faite à ses valeurs les plus sacrées se traduit en actes terroristes. En l'espace de quelques heures, les scénaristes sionistes ont réussi à cumuler trois coups. Trois personnes ont été tuées dans une étrange attaque à Nice, perpétrée à coups de couteau, donnant tout de suite à penser que l'assaillant, tué pour le reste par les policiers, ne pourrait qu'avoir été un agent bien entraîné. Puis il y a eu un coup de feu à Avignon laissant un mort, tandis qu'à Jeddah, ville saoudienne, le gardien du consulat français a été attaqué. Ces incidents interviennent alors que le président Macron a annoncé un nouveau reconfinement couvre-feu propre à museler une majorité silencieuse de Français qui voient ahuris leur pays se diriger droit vers la guerre civile. Le président Jupiter est-il satisfait? À vrai dire, cette entreprise de diabolisation des musulmans, de déclenchement de violences interconfessionnelles, est destinée pas uniquement à la France, qui sert là de cobaye à l'Empire, mais aussi à toutes les autres régions du monde où chrétiens et musulmans coexistent. Les semaines à venir risquent d'être particulièrement sanglantes en France, puisque l'axe US-Israël a décidé tour à tour d'allumer la mèche de la guerre au cœur de l'Europe et en tirer les dividendes, dont et surtout la suppression de toute voie européenne, un temps soit peu différent sur la scène internationale.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Stockholm avec Amat Rami, directeur de Radio Islam en Suède, et depuis Paris avec Imadeddine Amrouni, analyste politique. Monsieur Amrouni, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à tous vos invités, à tous les auditeurs.
Quel premier regard, Monsieur Amrouni, portez-vous sur cet incident à Nice qui s'est produit justement dans la foulée de la rhétorique, du discours de haine, du discours anti-islam d'Emmanuel Macron qui a soutenu en effet la liberté controversée de la publication des caricatures blasphématoires contre le prophète Mohammed?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, permettez-moi de présenter toutes mes condoléances aux familles des défunts qui étaient massacrés hier dans l'église à Nice. Une dame de 60 ans qui était décapitée, une autre dame de 44 ans qui est morte en sortant de l'église dans un restaurant, et un monsieur de 55 ans. C'est un acte terrible. C'est un acte terrible et qui vient le jour même de la célébration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète de la miséricorde et de l'amour et de l'amitié. Donc vraiment, nous sommes en deuil. En même temps, nous sommes heureux pour l'anniversaire de notre cher prophète, signe qu'il y a quand même un environnement aujourd'hui en France, je ne dis pas de guerre civile, le mot il est trop grave, mais d'une incompréhension entre les composantes d'une même nation qui est la France. Aujourd'hui, les musulmans sont montrés du doigt sans qu'ils soient responsables, mais ils sont victimes. Ils sont victimes de deux groupes en France. Le groupe salafiste wahhabite, il faut dire le nom, ce ne sont pas l'islam. Et un groupe extrémiste laïque d'une gauche sioniste, parce qu'il ne faut pas blâmer la France, ni blâmer la République, ni même blâmer le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, en France, on est dans une atmosphère où on est coincé entre deux extrêmes, l'extrême wahhabisme et l'extrémisme sioniste. Et donc, elles s'affrontent sur le sol français, elles utilisent des mots au niveau médiatique pour provoquer, c'est de la provoque, ce n'est plus de la liberté d'expression. Charlie Hebdo, il faut rappeler nos amis téléspectateurs que Charlie Hebdo, elle s'appelait Akakiri ou Akari, je pense, il y a à peu près une trentaine d'années. Ils ont mis une caricature anti-général de Gaulle. Et l'État français, il a interdit la publication de cette caricature. Il a dissous même Akari, l'ancien nom de Charlie Hebdo. Et ils ont choisi Charlie Hebdo en relation avec le général Général de Gaulle. Donc voyez-vous, ce moyen médiatique, en fait, ce n'est pas une expression de la liberté d'expression. Malheureusement, le président de la République française, il est mal conseillé, il est piégé par sa droite, représentée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, cette droite qui mal conseille le président. Le président veut la paix sociale, mais il utilise des mots qui désignent comme responsables les musulmans. Donc on a un problème de traduction, on a un problème de terminologie. La France n'a pas besoin d'une crise aussi importante entre ses composantes. Comme vous l'avez dit, on est dans une crise sociale, crise sanitaire, et on n'a pas besoin d'une crise communautaire.
Merci pour ces précisions. Alors une petite rectification, notre deuxième invité, c'est Maître André Chamy, juriste international et sociologue, qui est avec nous depuis Alsace. Maître Chamy, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir sur notre antenne.
Bonjour, le plaisir est partagé et c'est toujours réjouissant, si j'ose dire, d'être parmi vous, même si la circonstance n'est pas agréable et n'est pas fameuse.
Maître Chamy, pour vous, qui se trouverait en effet derrière cette crise sociale en France, qui s'est aggravée ces derniers temps, après bien entendu la rhétorique anti-islam du président français Emmanuel Macron, parce qu'il y a en ce moment même une campagne de diabolisation contre les musulmans, il y a des violences interconfessionnelles, et même certains évoquent en effet une possible guerre civile qui pourrait en effet éclater en France. Comment évaluez-vous cette situation, Maître Chamy ?
La situation est aujourd'hui, il faut le reconnaître, n'est pas à l'honneur de la France et n'est pas à la hauteur des attentes des Français. Aujourd'hui, effectivement, il y a des tensions qui sont fortes pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez une situation économique dramatique. Mais en réalité, quand vous parlez d'une situation économique dramatique, vous avez à ce moment-là les maux de la société qui surgissent et à ce moment-là, vous cherchez des coupables. Les coupables, une fois que vous avez épuisé, si j'ose dire, les rhétoriques habituelles, sont ceux qui ne travaillent pas ou vous culpabilisez ceux qui sont dans la misère sociale, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un groupe social. Et parmi les groupes sociaux que l'on cherche, évidemment les musulmans, mais en réalité ce n'est pas les musulmans, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la population maghrébine qui compose pour l'essentiel la population dite arabe en France, et puis par définition, la représentante de la communauté musulmane, parce que la majorité de cette composante est évidemment de appartiennent à la religion musulmane. La question maintenant qui est posée, c'est est-ce que tout le monde, si j'ose dire, remplit son rôle? Cette population d'abord a été exclue et se trouve dans des zones innommables, exclue du marché de l'emploi, objet de discrimination, mais également vous avez ce qu'on appelle l'adaptation de cette communauté à certaines idées en France. Alors, on nous dit, c'est l'islam de France, comment l'adapter, etc. Alors, à ce moment-là, on veut refaire un nouveau dictionnaire, qu'est-ce que c'est l'islam de France? Et évidemment, cette question a préoccupé les hommes politiques depuis quelques années, depuis Charles Pasqua, jusqu'à maintenant, nous sommes toujours en train de se poser la question, qu'est-ce que c'est l'islam de France? Parce que cet islam n'a pas trouvé, en tout cas selon certains responsables politiques, n'a pas trouvé sa place et n'a pas trouvé son adaptation par rapport aux valeurs de la République, par rapport à la Constitution, son rôle dans la société, etc. Ce sont des questions qui sont posées au quotidien, parfois de manière légitime et parfois pour accabler cette communauté en disant « vous êtes le responsable de ce qui se passe ». Et il y a évidemment un problème effectivement au sein de cette communauté qui a été rappelé par votre invité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les musulmans de France? Est-ce qu'ils sont tous égaux dans leur pratique? Est-ce qu'ils sont tous égaux dans leur compréhension de leur propre religion? Est-ce qu'ils pratiquent tous l'islam comme il se doit? Permettez-moi de dire, aujourd'hui j'ai beaucoup de doutes par rapport à cette question-là, c'est-à-dire il y a des torts français mais il y a également des torts musulmans. Et je ne suis pas en train de mettre tout le monde sur un pied d'égalité par souci de, je dirais, d'être au centre. Non, mais c'est tout simplement parce que quand vous partez dans une crise, il faut aussi chercher les difficultés rencontrées dans une société. Vous avez une difficulté, indiscutablement, du côté de la France, c'est-à-dire qui n'a pas assuré la bonne place à cette communauté, mais vous avez également une place qui n'a pas été bien prise par la communauté par rapport à son rôle et par rapport à ses valeurs, parce que je ne pense pas que les valeurs dégagées par ces fameux musulmans que aujourd'hui pointé du doigt, et notamment le dernier, le fameux terroriste en question, ne représente pas les valeurs de l'islam et ne représente pas les valeurs du musulman en général. Et par contre, quand vous caricaturez cette communauté-là à travers ces personnes-là, évidemment, vous avez le terreau explosif, raison pour laquelle il y a eu hier une manifestation identitaire qui criait que la France était aux Français, et c'était par opposition aux autres communautés qui se trouvent en France. C'est-à-dire, vous avez effectivement un mélange explosif, ce mélange explosif provient des deux côtés, mais également il y a un problème d'adaptation, il y a un problème d'adaptation de la France par rapport à l'islam qu'elle accueille, c'est-à-dire ce n'est pas aujourd'hui une communauté qu'on doit considérer comme une sorte de décoration pour la population française, c'est juste pour manger du couscous et du tagine. C'est une population à part entière qui a des droits, qui a des revendications, mais qui a également, le rôle aujourd'hui de victime de discrimination, d'exclusion et tout ce qui va avec. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des lois qui sont à répétition pour trouver un certain équilibre, mais en réalité, il n'y a pas de véritable volonté politique. Mais également, il y a ce problème, comme je vous le disais, de représentation, c'est-à-dire la communauté musulmane n'est pas suffisamment bien représentée, l'expression n'est pas à la hauteur de l'islam, y compris par les institutions représentatives, il faut le dire comme il se doit, parce qu'au sein de ces institutions représentatives, il y a des gens qui représentent mal et qui sont de la tendance, qui a été rappelée par votre invité, de la tendance wahhabite, c'est-à-dire qu'ils sont plus proches des extrêmes, mais par les extrêmes, ils ont obtenu leur rôle au sein de ces institutions, et la France a bien voulu leur donner ce rôle-là en disant, bon, on va les caser là, peut-être qu'ils vont être institutionnalisés, mais en réalité, quand vous êtes dans le mauvais bord et vous êtes dans le mauvais chemin, vous ne pouvez pas vous adapter à la République et la République ne peut pas s'adapter à vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une refonte de la représentation musulmane au sein des institutions représentatives, même si les musulmans n'ont pas l'habitude, si j'ose dire, d'avoir une véritable représentation, parce que la religion musulmane n'a pas de représentant, c'est-à-dire vous n'avez pas encore de calife aujourd'hui qui dit « je suis le représentant des musulmans », c'est-à-dire le rapport des musulmans est directement avec Dieu et avec le prophète. Il n'y a pas de rapport avec les gens qu'on considère comme chez les chrétiens, comme les gens de l'Église. Il n'y a pas d'Église musulmane. Il n'y a pas d'institution musulmane. Il y a des gens qui peuvent avoir un rôle et ces gens qui ont un rôle doivent le jouer correctement. Encore faut-il qu'eux soient bien formés, bien adaptés, et qu'ils comprennent les enjeux et surtout qu'ils sont dans la mouvance qui vient du fondamentalisme, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quels sont les fondamentaux de l'islam. Aujourd'hui, le mot fondamentaliste signifie ipso facto l'intégrisme. Or, le fondamentalisme n'est pas l'intégrisme. Le fondamentalisme, c'est le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire, comme l'a rappelé votre invité, c'est la clémence, la miséricorde, c'est la tolérance, c'est l'amour d'autrui, et c'est le rappel que les religions sont ouvertes à partir du moment où vous êtes monothéiste, et avec, bien entendu, des valeurs divines qui sont représentés par ces religions-là, c'est-à-dire nous ne devons pas être en confrontation avec les autres religions. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a l'enjeu de la communauté musulmane en France et qui n'est pas suffisamment bien joué. Et la France n'a pas encore, bien entendu, compris ce rôle-là et a essayé tout simplement de politiser l'islam comme on voit actuellement. Et des deux côtés, bien entendu, il y a des problèmes.
Merci pour ces éclairages, Maître Chami. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Ambruni, alors revenons à ce concept controversé de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Est-ce que insulter, en effet, les personnes éminentes et sacrées pourrait, en France, bien entendu, s'inscrire dans ce cadre? C'est-à-dire que est-ce que sous prétexte, en effet, de la liberté d'expression, on pourrait se permettre, en effet, d'insulter les valeurs religieuses et les personnes sacrées, en l'occurrence le prophète Mohammed, béni soit-il.
Bien sûr que non, mais vous savez, ça dure depuis 4 décennies aujourd'hui qu'il y a les gardiens de la laïcité, ce que j'appelle moi la gauche sioniste, parce qu'il faut mettre les choses comme elles sont. La gauche qui prétend défendre la liberté, la laïcité, l'anti-religion, en fait, ils ne sont pas que anti-islam, ils sont anti-chrétiens aussi, et même anti-juifs. Et donc, cette minorité intellectuelle française qui existe depuis toujours, depuis presque un siècle et demi, aujourd'hui, son ennemi en face, c'est l'islam. Maintenant, est-ce que les musulmans sont à la hauteur de leur islam? Bien sûr que non. Est-ce que la liberté d'expression est un droit fondamental de la République? Oui, parce que bon, il y a une culture républicaine en France, il y a des principes et des fondamentaux de la Révolution française. Il faut lire l'histoire de la France, l'histoire politique de la France, parce que c'est la République qui a créé la nation. La France est une idée politique, il faut le rappeler. Et cette idée politique, elle était fondée sur des principes de la République anti-Église. Et donc la construction intellectuelle de l'État français, c'est un État qui est fondé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est vraiment des fondamentaux. Par contre, l'histoire coloniale de la France n'a pas aidé cette République à se concilier avec les populations colonisées. Donc on a une relation contradictoire entre une administration française qui est toujours coloniale et on a les sujets de l'ancien empire français qui se comportent avec la France entre amour et haine. Et donc, tout ça a créé une atmosphère de non-confiance. Personne ne donne confiance. C'est-à-dire que les musulmans ne font pas confiance à la République ou aux représentants de la République et la République, elle essaye de donner conseil à ces musulmans et même de leur choisir un genre d'islam. Et ça, c'est faux aussi. La liberté d'expression, ce n'est pas d'insulter le prophète ou le Coran ou les prophètes ou les saints. Je me rappelle de Jacques Chirac, par exemple, ou même de François Mitterrand, les anciens présidents, ils avaient conscience que choisir les mots, choisir les termes est très important. Parce que lorsqu'on parle d'islam et des musulmans, c'est pas simplement par rapport aux musulmans de France, mais par rapport à 1,5 milliard de musulmans qui sont dans une géographie immense dans ce monde. Et donc, ça crée des problématiques politiques au niveau de la relation entre la France et la nation islamique, ce qu'on voit aujourd'hui avec M. Erdogan en Turquie ou avec d'autres populations ailleurs dans ce monde qui se mettent en avant pour défendre l'islam et défendre les musulmans. Et donc, on a l'impression qu'on revient à l'histoire entre l'Empire ottoman et la France républicaine. Et ça, c'est faux, bien sûr. Toutes ces images que les médias sionistes en France diffusent pour aggraver la situation, parce qu'il n'y a pas un état de guerre civile en France. Et les musulmans sont conscients qu'il faut pas répondre mot à mot à tous les racistes, à tous les xénophobes. Maintenant, le problématique, c'est pas de dire il n'y a pas de liberté d'expression. Si, on a la liberté d'expression. L'état des musulmans en France a changé, a progressé. On est mieux qu'il y a 30 ans. Par contre, cette visibilité islamique dans la population française, dans la société française, apparemment, elle gêne. Avant, il y a 30 ans, il n'y avait pas des femmes voilées. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Avant, il n'y avait pas la jeunesse française, elle n'était pas pratiquante. Aujourd'hui, la jeunesse française musulmane est pratiquante. Et donc, ça veut dire quoi, pratiquer l'islam dans une administration publique, par exemple, à la RTP, à la SNCF, comment se comporter dans son rituel, comment se comporter avec l'autre qui n'est pas musulman. C'est ça ce qu'il a voulu évoquer le président Emmanuel Macron lorsqu'il parlait du séparatisme. Parce que le wahhabisme, ce n'est pas l'islam. Donc, cette lecture rigoriste de l'islam ne représente pas l'islam dans la République.
Merci, monsieur Amouné.
La liberté d'expression, elle est utilisée par les sionistes pour enfoncer l'islam.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, pour vous, alors, quelle est l'influence de cette gauche sioniste et des lobbies sionistes en général, justement, dans l'intensification, non seulement de cette ambiance anti-musulmane, mais aussi de l'intensification, en effet, des tensions sociales en France?
Le rôle du sionisme est un rôle mondial où l'on parle dès le début, si j'ose dire, maintenant depuis les années 80, d'un conflit de civilisation. C'est la théorie de Huntington. Et aujourd'hui, on essaye de montrer que l'islam ne peut pas s'adapter au monde actuel et ça ne peut se régler que par une guerre. Cette guerre de civilisation qui opposerait, selon les promoteurs de ce projet-là, c'est-à-dire le monde judéo-chrétien, à l'islam. L'islam ne peut pas s'adapter, par conséquent, il faut lui déclarer la guerre. C'est ça l'idée. Et en déclarant la guerre à l'islam, bien entendu, on aboutit à asservir par l'effet de la force, c'est-à-dire soit on vous endoctrine et vous acceptez les théories qu'on vous impose, et c'est ce qui s'appelle aujourd'hui la normalisation, et vous êtes en train d'assister pratiquement au quotidien à un spectacle pathétique entre des pays, des musulmans, dans leur processus de normalisation avec l'entité sioniste. Mais ces gens-là, comme par hasard, ce sont les mêmes qui promeuvent actuellement le mouvement que j'appellerais moi de l'islam sioniste, c'est-à-dire l'islam qui se rapproche de l'idée sioniste et qui s'oppose à la civilisation musulmane, à la conception de l'islam, aux fondamentaux de l'islam. Et à cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rajouter à l'islam une image qui n'est pas la sienne et comme par hasard, ce sont les mêmes qui sont acceptés. C'est-à-dire, quand vous parlez en France des Saoudiens, ça ne pose aucun problème. Les Saoudiens, ce sont nos alliés. Quand vous parlez des Émiratis, les Émiratis sont nos alliés. Même quand ils parlent de la Turquie, qu'est-ce que c'est la Turquie? C'est un pays allié. Même quand ils insultent le président Macron, nous sommes toujours dans la même configuration. Il y a quelque chose qui est pathétique dans cette histoire-là, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui accepte la présence des extrémistes et qui les qualifie d'alliés, mais en même temps, en entraînant... Par la même occasion, on entraîne toute la population musulmane pour dire, regardez voir, ce sont les extrémistes. Mais les extrémistes, c'est les fruits de ces alliances entre ces pays-là et le sionisme mondial. Et puis, bien entendu, ce que j'appellerais, moi, l'alliance impérialiste-sioniste, parce qu'aujourd'hui, l'impérialisme américain est également dans le même combat.
Merci, Maître Chami.
Parce qu'il faut bien trouver un ennemi, et l'ennemi aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'islam, c'est tous ceux qui résistent à ces deux axes-là, l'impérialisme et le sionisme.
Maître André Chamy, juriste international et sociologue depuis Alsace. Imadine Dinabruni, analyste politique depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine.
Les révélations de Tarzan sur la séparation du Soudan. Le quotidien israélien Yediot Aharonot a révélé les activités d'un agent du Mossad, alias Tarzan, qui a formé pendant les années 80 une armée rebelle au Soudan du Sud. Âgé de 75 ans aujourd'hui, au début des années 80, David Ben Uziel, surnommé Tarzan, a effectué les missions en tant que membre du Mossad dans le nord du Soudan, qui est devenu plus tard la République du Soudan. L'ancien agent israélien a raconté comment il a été connu comme fondateur du Soudan du Sud, le même pays qui a établi des relations diplomatiques avec Israël en 2011, 2 ans après sa déclaration d'indépendance. Je m'y suis rendu en 1969 avec une petite délégation du Mossad pour avoir une idée de ce qu'était le Soudan du Sud. Et nous nous sommes demandé, seront-ils prêts à se battre si nous leur donnons des armes? Vont-ils se battre avec ces armes? À cette époque-là, Khartoum voulait intensifier la pression sur le Sud pour mettre fin à un problème appelé Soudan du Sud, a raconté David Ben Uziel. Interrogé pour savoir pourquoi Israël a envoyé une équipe au Soudan, Ben Uziel a répondu : l'idée était de cibler les pays musulmans, dont le Soudan. Les Sud-Soudanais nous ont dit : donnez-nous les armes pour nous battre. Nous combattrons l'armée du Nord qui est au Sud et ils n'enverront plus de troupes pour aider les Égyptiens dans le canal de Suez. L'ancien agent du Mossad a ensuite ajouté avoir fondé l'armée rebelle de ses propres mains et presque à partir de rien, ce qui a finalement conduit à l'établissement du Soudan du Sud. Ben Uziel est arrivé dans la région du Nord dans le cadre d'un plan visant à ramener des Juifs éthiopiens en Israël. « Nous entrions dans un pays ennemi », a-t-il dit. Il a ajouté « Ce n'était pas seulement un raid nocturne. Il devait y vivre, être sur le terrain et faire attention à ce qu'il disait. La moindre phrase mal formulée pourrait éveiller les soupçons. » Dans ces circonstances, vous devez vous comporter naturellement, car vous n'êtes pas vraiment qui vous dites être, a-t-il expliqué. C'est l'histoire, vivre dans un pays ennemi, mais mener des opérations dans ce même pays. Nous avons dû effectuer des missions consistant à sauver les Juifs dans un vaste désert, en leur faisant franchir illégalement les points de contrôle de la police soudanaise. Mauritanie. La France est en très mauvaise posture. Les manifestations sont multipliées à l'encontre de l'État français. En Mauritanie, après l'ouverture de l'ambassade d'Israël, qui a fermé ses portes à la même année, en 2009, c'est au tour de l'ambassade de France qui se trouve dans le collimateur. Des milliers de Mauritaniens, issus de toutes les couches sociales et de toute obédience politique, ont pris part ce vendredi à un rassemblement pour réclamer le boycott de France, a constaté un correspondant de l'agence chinoise. Les manifestants qui se sont rassemblés sur l'ancien aéroport de la capitale ont abordé des pancartes portant des inscriptions défendant la sacralité du prophète de l'islam, ce qui constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Ils ont également lancé des appels au boycott de France estimant que le président français a récemment tenu des propos contre le prophète Mohammed en appuyant des caricatures ridiculisant sa personne au nom de la liberté d'expression. Ces foules ont donc appelé tous les musulmans à boycotter les produits français. Auparavant, plusieurs partis politiques et associations de la société civile ont condamné l'attitude de la France face à l'islam, jugée provocatrice. En même temps, le ministère mauritanien des Affaires étrangères a condamné, suite à l'attaque terroriste de Nice, toute agression au nom de la religion. Dans un communiqué rendu public jeudi par le ministère, la Mauritanie a condamné l'attaque de Nice, soulignant avoir appris avec une grande tristesse l'attaque terroriste contre les fidèles de la basilique Notre-Dame de Nice en France. Ouattara appelle au calme après des incidents électoraux. Jour de vote tendu en Côte d'Ivoire, malgré l'appel au calme d'Alassane Ouattara. Briguant un troisième mandat controversé après le décès en juillet de son dauphin, l'ancien premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État a voté à 11h30 dans le quartier de Cocody à Abidjan. Plus de 7,5 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes lors de ce scrutin présidentiel. Je demande à tous mes concitoyens qui aiment la paix et le patriotisme de voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changements dans les textes par rapport à l'évolution de la situation, a déclaré Ouattara au sortir du bureau de vote du lycée Sainte-Marie. Le président sortant a appelé à mettre fin à la désobéissance civile alors que des incidents ont eu lieu dans certaines régions du pays. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo était sorti jeudi de sa réserve pour s'exprimer sur la chaîne française TV5 Monde depuis la Belgique, où il attend un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale après son acquittement en première instance de crimes contre l'humanité. Se disant résolument dans l'opposition, Laurent Gbagbo avait appelé au dialogue à 2 jours du scrutin présidentiel du 31 octobre. « Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. C'est pour cela que je parle. Pour qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pieds et poings liés à la catastrophe. Il faut discuter. » L'accord de cessez-le-feu en Libye est une étape majeure pour faire taire les armes en Afrique, selon le président de l'Union africaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en tant que président de l'Union africaine, a salué dimanche l'accord de cessez-le-feu en Libye en tant qu'étape majeure pour faire taire les armes en Afrique. Nous félicitons tous les signataires pour s'être entendu sur cet accord historique de cessez-le-feu permanent, a-t-il déclaré dans un communiqué. Les 2 délégations libyennes ont pris part au pourparlers de la commission militaire mixte libyenne 5+5 et ont signé vendredi à Genève un accord de cessez-le-feu permanent à l'échelle nationale et à effet immédiat selon l'Organisation des Nations Unies. L'accord de cessez-le-feu, sa mise en œuvre et son respect constituent une première étape essentielle dans la création des conditions favorables à une paix durable en Libye, a affirmé le président sud-africain. Le chef du CDC Afrique appelle les pays africains à se préparer pour une seconde vague d'infection de COVID-19. le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a appelé jeudi les pays africains à se préparer à une seconde vague d'infection de COVID-19. S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne, le directeur a déclaré que le continent devait se préparer à une seconde vague d'infection de COVID-19, car le nombre de nouveaux cas dans plusieurs pays africains marque une légère augmentation. C'est maintenant que le continent doit se préparer à une seconde vague, a-t-il déclaré. Le continent a très bien réussi à maîtriser la courbe des infections, avec un pic du nombre d'infections aux alentours de juillet, puis un recul régulier. Mais nous commençons maintenant à observer une certaine stagnation et même une légère augmentation dans certains pays africains, a-t-il ajouté. Alger dévoile la plus grande mosquée d'Afrique. L'appel du muezzin a retenti pour la première fois mercredi pour la prière du soir à la grande mosquée d'Alger, la troisième plus vaste au monde et la plus monumentale d'Afrique, un an et demi après la fin de sa construction, sur fond de polémiques. À la veille de la fête de la naissance du noble prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, la grande salle de prière pouvant accueillir jusqu'à 120 000 fidèles a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Abdelmadjid Djerad et des membres du gouvernement. M. Djerad a remplacé au pied levé au président de la République transféré mercredi soir en Allemagne pour des examens médicaux approfondis après des cas de COVID-19 dans son entourage, selon un communiqué officiel. Une cérémonie plus importante est prévue à une date indéterminée, avec la présence de la présidente de la République pour marquer l'inauguration officielle de la mosquée.